Cascodeur Podcast, épisode 309. React à 10 ans avec Amélie Benoît et Manuel Cartier. Enregistré le 4 mars 2024.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs.
À tous et à toutes à ce nouvel épisode des Cascodeurs. Je suis aujourd'hui accompagnée de Amélie Benoît et Manuel Cartier qui viennent nous parler aujourd'hui d'un sujet dont je suis très très junior et dont on est constamment accusé aux Cascodeurs de vous êtes pas très calé en front. Et en effet, on n'est pas très calé en front et c'est bien pour ça qu'on a aujourd'hui nos invités. Bonjour Manu et Amélie depuis Montréal aujourd'hui. Avec son
oui, lag. Je vais faire tout ce que je peux pour éviter de bégayer. Ça va bien se passer. Je vous remercie de m'accueillir.
Manu, toi, t'es pas en décalage
pas
horaire.
Du tout. Moi, je suis totalement en France. Là, je suis à Rennes, en Bretagne, et ça se passe très bien.
Ok, ok. Et donc, oui, on va discuter aujourd'hui et parler de React, le framework front-end qui a 10 ans. Mais avant tout, j'aimerais vous donner la main pour que toutes les personnes qui écoutent vous connaissent un peu mieux. Donc, Amélie, si tu veux te présenter.
Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amélie. Je suis développeuse front-end depuis bientôt 10 ans maintenant. Ça me rejeunit pas trop. Et donc, du coup, j'ai commencé avec du AngularJS à l'époque. Feu AngularJS, j'espère pour vous. Et puis, j'ai rapidement migré sur du React en changeant d'entreprise avec les opportunités qui se sont présentées à moi. Donc, React en JavaScript au début. Puis après, j'ai fait un peu de React Native en changeant d'entreprise encore une fois. Puis, j'ai refait du React en TypeScript cette fois. Bon, bref, en gros, je suis restée sur la stack React tout le long, quasiment. Et en voyageant et en faisant pas mal de choses dans ma carrière, j'ai créé deux meet-up, dont un autour de React et React Native, justement à Bordeaux, pour faire un peu une espèce d'émulsion autour de l'écosystème React justement dans ma ville natale. Donc voilà, je suis organisatrice de ce meet-up-là et d'autres meet-up également. Je suis co-organisatrice de BDXIO, la conférence tech à Bordeaux aussi. Et voilà, aujourd'hui je suis tech lead manager, c'est un grand mot pour dire que je fais aussi du développement en React encore aujourd'hui, et j'accompagne des développeurs de BuzzBud, qui est du coup la scale-up canadienne pour laquelle je travaille, où je suis aujourd'hui d'ailleurs en présentiel. Et donc voilà, je vais vous parler un peu de React avec Manu.
Tu es aussi speaker dans des conférences aussi et oratrice.
C'est vrai, j'ai eu la chance de faire pas mal de talks sur plein de sujets différents, dont du React. Reason ML aussi, qui est le langage que j'avais utilisé pour faire du React native à l'époque. J'ai pas mal de talks autour de tout ça. Et c'est effectivement pour ça qu'on me connaît un petit peu aussi aujourd'hui. J'en suis très heureuse.
Manu, donc je te laisse la main pour
salut,
te présenter.
Ben moi, c'est Manu. Je suis pas connu comme Amélie pour les mêmes choses. Moi, on va dire que les gens qui me connaissent un petit peu, c'est grâce à Twitter. Moi, c'est là-dessus que je suis actif, c'est sur cette plateforme-là. Je suis développeur depuis 18 ans. Moi, j'ai pas commencé par le front-end, j'ai commencé par le software. Donc moi, j'étais dev C, C++, assembleur. J'ai fait mes armes en encoding vidéo pour commencer. Donc, je travaillais sur un transcodeur. Ensuite, je suis parti dans le web il y a maintenant, je sais pas, 8 ans. Quelque chose comme ça. Je crois que j'ai fait, une fois dans le web, j'ai fait un peu le chemin d'Amélie. Donc, j'ai fait de l'Angular et là, je suis passé sur React. Je suis passé sur React, il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, là, je me suis bien posé, React, TypeScript et tout. Mais j'ai quand même encore mes armes de développeur software à la base. Donc, du coup, bah, je suis full stack, front et back. Quoi.
Front et back, c'est ça. Et j'ai fait un peu de React moi aussi. D'ailleurs, en étant full stack, c'est-à-dire je suis un développeuse back-end Java, et dans notre client, il n'y a pas des gens qui font du front, donc tu fais du front aussi. En gros, c'est ça, mon full stack, le full stack de sauvetage. Pareil, chez Red Hat, la console web d'Infinispan est buildée avec un framework de composants open source qui s'appelle Patternfly, qui est basé sur React. Donc, moi, je suis utilisatrice junior dans mon coin, de React. Et en fait, du coup, oui, j'aimerais donc qu'on fasse une petite introduction à React pour toutes ces personnes qui écoutent et qui connaissent un tout petit peu ou que peut-être ils connaissent Angular mais ou d'autres framework front ou qu'ils ont fait du front dans le passé et qu'ils ont envie de découvrir un peu plus la technologie.
Absolument.
Il y a quand même des gens. Donc, c'est pour un framework JavaScript, C'est un success story ouais. Des malades, on est d'accord. Hein.
Clairement, il faut dire qu'effectivement, il y a 10 ans, le paysage web était très différent de ce qu'on a aujourd'hui, à tous les niveaux. En fait, je vais commencer un peu à faire l'intro là de pourquoi React et tous ces libs et tous ces frameworks sont arrivés en fait à la base, c'est que on avait du web à l'époque qui était très statique, qui répondait à des problématiques qu'on avait à l'époque, qu'on a réussi à résoudre aussi entre-temps. Mais voilà, en fait, on se retrouvait avec des pages web qui étaient statiques. Dès qu'on voulait faire des évolutions ou rendre la page interactive, ça nous demandait de créer des ce qu'on appelle les event listeners, donc d'attacher vraiment du comportement à chaque élément du DOM directement sur la page. Donc, ça demandait quand même pas mal d'évolution JavaScript, enfin, pas mal de maintenance et pas mal de code JavaScript pour faire la moindre petite interactivité côté front. C'était assez difficile à faire, c'était lourd à maintenir. Il y a des libs qui étaient apparus comme jQuery entre-temps pour nous aider un peu à faire tout ça, à rajouter aussi comme un espèce de cycle de vie. Ben, dès que la page est chargée, on va vouloir faire ça. Rajouter plus simplement des event listeners aussi à nos éléments du DOM pour rendre la page plus facilement interactive et amener une meilleure maintenance aussi. Tout ça restait quand même relativement difficile à faire. Et on se retrouvait avec ce qu'on appelait des multiple page applications, c'est-à-dire que dès qu'on va vouloir faire le moindre changement sur la page, généralement, on rechargeait toute la page. Dès qu'on allait naviguer sur une autre page, toute la page se rafraîchissait également. C'est notamment, je vais parler au dev backend, c'est comme ça que fonctionnait PHP aussi. Quand on changeait la page, tout se rechargeait aussi, au travers d'un système de templating, hein, dont on avait quand même des facilités pour faire des loops, pour faire pour manipuler le DOM un peu plus simple, mais malgré tout se recharger, on avait vraiment un système de multi-page application, et c'est ce genre de problématiques auxquelles on a cherché à répondre lorsque ont été introduits d'abord AngularJS à l'époque. Ouais. C'était apparu en 2010. Donc, c'était le premier vraiment à sortir à l'époque. Ça a été une petite révolution, une grosse révolution. En fait, AngularJS, ça a été pas mal adopté à l'époque, il me semble. C'était il y a très longtemps pour moi aussi.
Les modèles, par contre, d'AngularJS, étaient, à cette époque, étaient plus MVC, donc Model View Controller. Ce n'était pas basé composant, si ma mémoire...
C'est exactement ça.
Me fait pas de... Oui, et donc c'est après, c'est aujourd'hui qu'on est sur les frameworks plus composants niveau front.
Exactement. Par contre, en revanche, malgré le fait que on dit que Angular soit plutôt un framework MVC, là où lui il a apporté le contre-pied par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'on est passé des MPA, comme disait Amélie, multi-page application, où le back-end c'était du templating. Donc en fait, le back-end on s'en servait pour générer du HTML. Mais aujourd'hui, avec AngularJS, enfin, je parle dans le passé là, il y a 10 ans, et ben, on est passé sur le modèle SPA, Single Page Application. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, finalement, c'est le front qui est en charge de générer les différentes pages et les différents contenus sur la plateforme.
Oui, parce qu'à l'époque, justement, dans l'écosystème Java, il y avait énormément de framework back-end qui se battaient pour dire, alors, c'est ce framework-là qui est meilleur, c'est celui-là, pour générer toute la partie front. Et c'est Angular, je me rappelle, parce que moi aussi, j'ai pas mal de cheveux blancs maintenant, de coding, et que c'était genre, ah, ok, bah là, non, on va arrêter de faire ça, on va arrêter de gérer ça dans le back, on va faire du reste. C'est de endpoint REST, du reste, et on envoie toute cette complexité dans le front, et nous, on est tranquille. Et du coup, depuis, on s'est concentré, et la révolution dans le bac c'est parti sur un autre chemin, où tous les débats et tous les trucs sont ailleurs maintenant par rapport à ça, et c'est le front, ouais. En fait. Et il y a React qui est apparu à
excellent
un moment donné.
Excellent point de vue. J'aime trop ton côté du storytelling. Ouais. C'est super intéressant.
On vous remercie de nous avoir refilé tout ce débat d'ailleurs, parce que ça n'arrête plus maintenant côté front. C'est un écosystème ultra vivant vis-à-vis de tout ça. Donc...
Ça fait c'est ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça fait manger, ça fait du drama, ça fait tout ce qu'il faut, et c'est marrant aussi de voir ça d'un point de vue back-end quand tu l'as souffert, de prendre tes pop-corn et dire alors maintenant c'est pas à moi maintenant, nous sur ça on est d'accord, alors dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon, d'un coup, du coup, comme vous dites, il y a donc React qui est apparu aussi à un moment donné dans cette, à ce moment-là, en 2013.
Effectivement, en 2013, donc trois ans plus tard, il y a Facebook, aujourd'hui Meta, qui a lancé son propre framework. Donc Angular, c'était Google. Facebook est arrivé avec sa lib. Alors, c'était différent de Angular, qui lui était vraiment un framework qui arrivait avec toute une architecture, avec son framework MVC, avec son métalangage même, pour tout ce qui était templating, il y avait un métalangage à apprendre, donc il y a quand même une petite courbe d'apprentissage pour AngularJS avec d'autres problèmes qu'il y avait à côté sur le double data binding et d'autres choses qui étaient assez problématiques à l'époque sur l'AngularJS. Facebook est arrivé avec une approche complètement différente avec sa librairie, différente du framework, dans le sens où c'était pas du tout opinionated, c'était ultra light, et vraiment la promesse était simple, elle était de vouloir nous aider à construire la UI, tout simplement. C'était juste ça, quoi. C'était super, super léger. Et en fait, effectivement, ils sont arrivés à quelque chose qui est basé sur du JSX. Donc, JSX, c'est JavaScript Syntax Extension, avec mon super accent anglais, attention. Et en gros, c'est du JS qui va intégrer du HTML. Donc, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est beaucoup plus proche du langage natif que ce qu'on avait... Enfin, Angular l'était aussi, mais un peu moins. Encore une fois, avec toute l'approche framework, c'était un peu plus complexe à prendre en main. Le JSX, lui, si on connaît le JavaScript et si on connaît le HTML, c'est quelque chose d'extrêmement simple à prendre en main et à jouer avec.
Si je peux rajouter quelque chose sur faire une petite note là-dessus, là où le JSX prend le contre-pied par rapport aux autres template engine, parce que en fait, au final, le JSX, c'est du templating, donc on pourrait se dire, on avait déjà Mustache, on avait déjà tous les autres trucs et tout, c'est que le JSX, en fait, c'est des expressions JavaScript. Donc en réalité, c'est-à-dire que là où le template, c'est quelque chose qui va plutôt faire partie du scope parent, outer scope, c'est le template qui génère le résultat, le JSX, en fait, il vient se fusionner avec le langage, et en fait, tu peux mettre une expression JSX dans une variable, car c'est une expression en fait. Donc, ils ont réussi à décorréler ce template engine, qui n'est pas vraiment un template engine si on part au sens littéral du terme, de leur librairie, et c'est ce qui, pour moi, a aussi contribué au succès de React. Le langage cible, c'est la template, au lieu de me dire que la template, elle va générer le langage cible.
Oui, tout à fait. Ça dit un truc intéressant, c'est que voilà, tu parles de composants. Et là où la grande force de React a été aussi, c'était de vraiment de se dire que finalement ton interface est orientée composants qui sont modulaires. Donc vraiment chaque aspect de ton UI va être décomposé si on veut pour créer des composants qui vont être imbriquables et réutilisables. Et ça a été aussi une grosse force de React quand il est arrivé, de changer vraiment ce mindset de comment on va construire nos UI et de vraiment faire des choses réutilisables. Et quand on revient en arrière, je me souviens qu'à un moment j'étais revenue sur du vanilla et j'avais essayé de refaire des trucs réutilisables en HTML, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement quasiment impossible à faire à l'époque. Donc ça a été un gros changement de mindset vis-à-vis de ça. Un des gros changements aussi qui m'avait pas mal marqué, moi, c'était tout ce qui était en fait la séparation des concerns. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment cette séparation, et même avec Angular, on voyait bien qu'on avait le JS, le CSS, le HTML et la data qui étaient vraiment une décomposition technique de notre stack, en fait, finalement. Et changer ça pour arriver sur une décomposition modulaire par composant, et chaque composant comporte son CSS, son HTML et son JS finalement, et vraiment on se focus plus sur la façon dont on va composer, modulariser chacun des composants et notre UI plutôt que de réfléchir à la côté technique. Et je trouve que ça nous aide vraiment à avoir quelque chose de plus business au final, quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on cherche à produire plutôt que de répondre à des problématiques techniques. Pour moi, ça a été ça un peu le mind shift là par rapport à React.
Et donc, je vois bien que en février 2019, il y a la version 16 de React qui est sortie. Et en fait, cette version a ramené deux shifts importantes. Une, c'est la partie fonctionnelle, et l'autre, c'est le React Server Components, dont je suis vachement intéressée par cette partie-là personnellement. Et oui, et donc, c'est quoi exactement ces deux shifts fonctionnels qui sont arrivés en 2019?
Ok, alors les deux ne sont pas arrivés au même moment. Les Functional Components sont arrivés un peu plus tôt, et les React Server Components, c'est tout récent. C'est même encore aujourd'hui en Canary ou Beta, on peut appeler ça un peu comme on veut. Le premier shift qu'a fait React justement, c'est avec les Function Components, puisqu'en fait dans l'idée, créer un composant, quand on est développeur backend, on se dit direct on va faire une classe tout simplement, et voilà, c'est ça ton composant réutilisable, tu as des instances de classe et chaque instance, bah, si tu as deux navbars sur ton site, bah, tu réinstancies deux fois la classe navbar et puis c'est réglé. Donc, ça paraissait logique de commencer React de telle ou telle manière. Et après, avec tes méthodes, tu pouvais récupérer l'UI, injecter de la data, bref, un peu comme ça. Mais le premier chiffre, ça a été de se dire, OK, on n'a plus besoin de partir dans ce système de classe et de, après, gérer tous les autres problèmes de héritage, composition, si machin, les méthodes de lifecycle pour dire, ah, je veux exécuter tel code quand le composant demande quoi. Ils ont supprimé tout ce shift. Ils ont dit, OK, en fait, maintenant, React, on veut que ce soit extrêmement minimal. Donc maintenant, c'est juste un composant est une fonction qui prend le state en paramètre. Donc l'état, donc typiquement une navbar, est-ce que c'est en dark theme, est-ce que c'est en light theme, bref. Et ce que la fonction return, c'est la vue. Donc en gros, React, maintenant, le système de composants, c'est des trucs qui prennent paramètres state en input et qui return la vue. Donc il n'y a pas plus minimal que ça possible, tu vois. On peut imaginer une checkbox, elle prendrait son en paramètre is check, et si c'est check, bah, dedans, il y aura le petit V. Si c'est pas check, ça return avec pas le petit V dans la checkbox. Et du coup, c'est eux, après, en interne, dans le corps de leur framework, qui vont gérer ce toggle et tout, qui vont gérer le rappel des composants et tout. Donc, on est passé d'un modèle où on avait des méthodes de lifecycle, de dire, bah, tiens, je vais exécuter ça quand le composant monte, ça quand le composant est update, ça quand les props sont update, quand le state a changé, machin, nanana, à un modèle où maintenant, on arrête de penser comme ça, et juste, on fait une fonction qui prend le state et dont la seule responsabilité est d'afficher la bonne vue en fonction du state. Énorme chiffre mental, parce que du coup, toutes les parties de code qui, à l'époque, étaient « je veux exécuter ça de manière impérative quand le composant monte » n'existent plus.
Que mon composant monte, ça veut dire avant qu'il soit
affiché. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et donc, dans les composants React, il fallait quand même gérer tout là, non ? De dire… si mon composant démarre, bah, je sais pas, j'ai fait un appel de je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, je récupère je sais pas quoi. Après, j'affiche machin. Et tu devais gérer tous ces cycles de vie. Alors que maintenant, c'est vraiment, comme tu dis, des données d'entrée. Et selon les données d'entrée dans un composant, ouais, comme ouais. Une boîte noire, non? Il a affiché tel ou tel rendu HTML. Des sous-composants qui encore eux vont aussi tout est imbriqué.
Ouais, c'est exactement ça. Dire, non.
Donc et après il y a le React Server Component.
Exactement, c'est le truc nouveau. Nouveau
que on pourra appeler, on pourra parler peut-être un peu plus
et
tard.
Et ça c'est un énorme chiffre mental. Donc, encore plus, c'est deux fois plus chiffre mental, je dirais, que de passer des class components aux functional components. Ça change vraiment totalement la manière de réfléchir ton React. Et du coup, c'est là où je trouve ça intéressant d'être dans ce podcast aussi. C'est parce que je t'ai entendu plusieurs fois dire que React était un framework front-end. Mais depuis cette voilà, chose-là, c'est plus
on vous rend le bébé.
Donc, voilà.
Oh my God.
Ouais, bah, je suis désolé.
Laissez-nous
tranquille. Dans le bac. Je suis désolé, on fait le tour de la boucle là, complet. On est en train de revenir à l'état initial, quoi. Donc maintenant React, ça devient full stack, quoi. Donc
il y a beaucoup de belles choses que vous dites de React. Il n'y a pas que React. Il y a d'autres frameworks front orientés composants comme Angular maintenant aussi, Vue, et il y a un autre aussi Svelte. Donc c'est quoi? Pourquoi React? C'est quoi les points forts des React vis-à-vis de ces frameworks-là? Et c'est quoi ces points faibles?
Ok, ben je vais expliquer, excellente question, elle revient souvent et on voit beaucoup la réponse, c'est une question de goût, mais moi je vais rentrer un peu plus dans le côté technique, les différences techniques entre ces trois frameworks et la philosophie aussi, parce que je pense que c'est important. Et c'est ça qui fait qu'au final ça devient du goût, c'est le goût de la technique. Du coup, alors React, on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur un modèle extrêmement minimal où en fait nos fonctions elles prennent du state et renvoient de la vue, et c'est dans du JavaScript, donc le framework se passe dans du JavaScript, c'est-à-dire que la template est dans le langage cible. Vue.js, c'est totalement différent. Vue.js, le format de fichier, c'est des fichiers .vue, donc c'est une syntaxe à part, donc ils ont dû créer leur propre builder, donc ils ont leur propre système pour build les fichiers vue, les composants vue, donc ils ont du HTML en haut du fichier et du JavaScript en bas du fichier, et en gros, on a ce système de vue qui va un petit peu relier les deux, relier les fils, donc c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus haut niveau que React, je dirais. On a des il y a un système avec des expressions qui ne sont pas des trucs qui existent en JS. On ne va pas pouvoir faire de if ou de trucs comme ça. Ça va plus ressembler à l'ancien Angular où on a des directives ou des attributs HTML, par exemple ngif, qui en vue s'appelle vif pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un peu plus au niveau Créact, mais ça peut être pratique. La courbe d'apprentissage est beaucoup plus simple que React. Tu vas être vachement plus pris par la main, alors qu'avec React, il se base sur le principe que vu que c'est que du JavaScript, c'est toi qui te débrouilles. Si tu veux faire une condition, tu fais un if, tu fais une ternaire. Si tu veux faire une boucle, tu fais un array.map ou tu fais un for ou un while. C'est toi qui te débrouilles. Alors qu'avec Vue, tu as des systèmes qui te disent « Ah, tu as une liste de composants, tu veux en afficher une liste, voici ce que tu dois utiliser. » Tu es vachement plus pris par la main. Donc, c'est des différences philosophiques. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Ensuite, le plus particulier, je dirais que c'est Svelte. Svelte, ils ont pris encore un contre-pied par rapport à tout ça. C'est que Svelte, c'est juste un compiler. C'est-à-dire que on n'a pas tout ce runtime comme avec React, on n'a pas tout ce runtime comme avec Vue, avec la lib, elle a un runtime. Il n'y a pas de runtime Svelte. C'est-à-dire que dans ton site en front-end, tu n'auras pas de fichier svelte.js avec un code particulier dont le seul but est de faire fonctionner la lib. Ça ne fonctionne pas comme ça. Svelte, il va compiler ton code en Svelte, dans ta syntaxe en Svelte, vers vanilla, le vanilla le plus minimal possible, en fait. C'est un peu juste Svelte, un compiler qui te permet d'écrire ton code de manière modulaire comme React, mais qui derrière va te produire du vanilla JavaScript comme si tu avais toi-même modularisé ton code derrière dans le JavaScript natif. Donc, c'est encore un contre-pied. Aujourd'hui, c'est moins vrai avec la dernière mise à jour de Svelte. Ils ont un peu rajouté un petit truc, mais voilà, on part sur le principe normal. C'est juste un compiler, Svelte. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que derrière, vu que c'est un compiler, ils peuvent faire de l'optimisation que React et Vue ne peuvent pas faire parce que bah, c'est runtime. Donc, passer une lib de runtime à build time, c'est un shift extrêmement intéressant. Et c'est tellement intéressant que la prochaine innovation de React après les RSC, c'est ça. Donc, là, React, après les RSC, ils viennent d'implémenter un compiler. React devient un compiler maintenant. Donc, il y a un troisième chiffre mental qui vient encore se rajouter. Je suis désolé, les développeurs React, ils ont vraiment changé d'avis toutes les deux secondes. Mais React devient un compiler et du coup, ils implémentent les mêmes optimisations que Svelte avec une technologie qui s'appelle React Forget. Du coup, c'est un peu ça les différences. Et Angular aujourd'hui, Angular qui était celui qui a vraiment mis en avant TypeScript, donc les types en JavaScript, ceux qui se demandent, c'est une couche de JS qui permet de mettre du typage. Globalement, tout le monde utilise ça. Hein. Et voilà, donc le typage, la majorité s'accorde à dire que c'est une bonne chose quand même. Donc oui, aujourd'hui, que ce soit React, Vue, Svelte ou Angular, ils sont tous en TypeScript. Voilà, donc c'est pas forcément obligatoire. Il me semble que le seul où c'est obligatoire d'être en TypeScript, c'est Angular. Et les autres, il me semble que c'est un choix. Mais globalement, la majorité fait du TypeScript. Pour revenir sur Angular, qui était le dernier dont j'ai pas trop parlé. Lui, c'est obligatoire de faire du TypeScript parce que c'est à partir de AngularJS est mort pour laisser place à Angular tout court, qui était en fait un petit peu l'instaurateur du TypeScript dans le front. En fait, c'est lui qui est venu faire le précurseur là-dessus et de dire hey, regardez, en front aussi, on peut avoir des types dans nos frameworks. Utilisez TypeScript, s'il vous plaît, quoi. Donc voilà, donc très très cool là-dessus. Et Angular, lui, le contre-pied philosophique qu'il a par rapport à tous les autres, c'est qu'il est, comme ils disent les Anglais, battery included. Il te propose une solution à tout, c'est-à-dire tu veux faire du data fetching pour aller récupérer de la data dans les API REST, ils ont une fonction pour ça. Tu veux faire de l'authentication ou tu veux te login sur ton site, ils ont une fonction pour ça. Globalement, tu veux faire n'importe quoi, ils ont une fonction pour ça. Alors que React, ils n'ont pas de fonction pour ça. Ils te proposent de sauvegarder l'état d'une variable, fini. Il n'y en a pas d'autres fonctions en plus. Donc, c'est à toi de récupérer les librairies que tu veux par-dessus React, donc tes petits building blocks, pour construire ton écosystème un peu comme tu le veux. Il n'y a pas de philosophie définie de base. Angular, c'est le contre-pied. C'est très robuste, très carré, très documenté. Une manière de faire les choses. Tu as travaillé sur une code base Angular, tu peux travailler sur une autre code base Angular. C'est la même. Donc, voilà, c'est différentes philosophies.
Oui, c'est en ça qu'on dit que React est vraiment une lib et non un framework et que React est non opinionated. Ça a un peu changé depuis le début de React dans le sens où au début, effectivement, React c'était que ça et puis c'était à nous de venir ajouter nos couches. Alors on a beaucoup entendu parler comme de React Router, de Redux, de choses qui venaient tout le temps. C'était souvent les mêmes librairies qui revenaient et qui venaient compléter un peu la stack, mais on était quand même libre de mettre les briques qu'on voulait pour assembler notre application et c'était ça la vraie puissance.
pour démarrer avec React, quelle serait la meilleure manière pour toi? Moi, je le fais toujours utilisant un framework de composants déjà existant que j'ai utilisé dans mes applications. Mais pour quelqu'un qui se dit ah ben j'aimerais apprendre de React, comment il pourrait démarrer aujourd'hui?
Il va y avoir plusieurs méthodologies selon ce que vous voulez faire et selon où est-ce que vous en êtes aussi dans votre application. En fait, moi, j'ai fait un peu le shift inverse dans ma carrière où j'ai été développeuse React et j'ai fait du back-end. Mais ça a été simple pour nous parce qu'on avait toute notre stack en TypeScript à l'époque. Donc, ça a été simple dans ce sens-là. Donc déjà, si vous êtes dev back-end et que vous voulez vous mettre sur du React, généralement, vous pouvez garder l'IDE que vous utilisez. La plupart des IDE aujourd'hui sont compatibles avec du développement React. Pour moi, il y a deux réponses à ça. Soit tu as déjà une application qui existe et tu veux comme la migrer en React ou faire une partie de ton application en React, ça c'est complètement possible parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que React va s'injecter dans une div en gros HTML que tu vas avoir déclaré dans ton HTML. Typiquement, si tu télécharges un boilerplate aujourd'hui, tu vas voir que React, tu vas avoir une div juste dans ton HTML, index.html, tu vas avoir une div root avec un ID et en gros toute ton application derrière React va se compiler en fonction des fichiers JSX que tu vas avoir générés, du lifecycle, etc. Et va injecter tout ça dans la div root qui est déclarée dans le index HTML. Donc aujourd'hui, si tu as une application existante qui n'est pas en React et que tu veux quand même injecter, faire du React à l'intérieur, tu peux très bien déclarer une div quelque part et créer tes fichiers JSX à côté qui vont aller injecter dans cette div le début de ton application React. C'est quelque chose qui est possible de faire pour, encore une fois, soit gérer une partie de ton application en React, si tu vas avoir une single page application à un moment sur un certain flow de ton tunnel d'application, ou si tu veux migrer ton application au fur et à mesure aussi. Imagine, t'as une grosse application JS ou dans un autre framework ou peu importe que tu veux migrer au fur et à mesure, tu peux très bien le faire comme ça et rajouter tes fichiers JSX au fur et à mesure. Si t'as une page blanche, généralement, tu vas utiliser on conseille d'utiliser quand même un boilerplate. Tu peux partir de zéro, hein, mais si vous suivez ce qu'il y a écrit dans la doc de React, en gros, ils vont conseiller d'utiliser pour utiliser à la place du Create React App qui existait à l'époque. Si vous en avez entendu parler, ça n'existe plus. Je crois que c'est plus maintenu. Mais en tout cas, ils recommandent essentiellement d'utiliser des frameworks qui ont été construits. Ils recommandent d'utiliser plusieurs frameworks du coup qui ont été construits et qui sont maintenus par des grosses équipes telles que... après, ça dépend des besoins que vous avez aussi. Ceux qui sont recommandés, ça va être Next.js, sûrement que vous en avez entendu parler. C'est un framework qui est quand même orienté server-side rendering. On va en reparler après. Et puis après, je sais pas, Manu, si tu as plus de connaissances, toi, sur justement tous ces frameworks-là.
Next.js, comme dit Amélie, du coup, c'est pour le SSR. Donc, en gros, c'est la partie back-end dans React. Donc, eux, ils viennent prendre le React front-end qu'on connaît et ils ajoutent le back-end. Ils sont en mode, on a fait un framework full-stack basé sur React. Remix, c'est la même chose, mais avec différents design patterns, une technologie un peu différente et tout. Mais pareil, c'est React en server-side rendering first, donc en back-end first. Gatsby, qui aujourd'hui existe plus trop. Gatsby, c'est c'est plutôt un builder de sites statiques. En gros, tu vas taper ton code React et lui, à la fin, tu tapes build et il te sort ton HTML, CSS, JS et tu les mets sur un hébergeur statique, dans un bucket ou quoi, et c'est fini. Du coup, voilà, c'était plus ça l'idée. Ça utilisait GraphQL aussi, Gatsby. Expose, c'est le framework React qui sert à faire du React native, donc native dans le sens Android et iOS. Il fait aussi un peu de web, mais c'est pas très populaire pour ça, Expo Web. Du coup, voilà, c'est genre une code base React et tu déploies sur les deux environnements iOS et Angular avec très très peu de code différents pour les deux, voire aucun la plupart du temps. Et ensuite, Vite.js tout court même, qui est pas vraiment un framework, c'est plus un bundler, un builder. Lui, c'est vraiment un outil. En fait, c'est une suite d'outils front-end, Vite. Et c'est vraiment utilisé, c'est pas mal utilisé pour React aussi. C'est fait pour, en fait, plus une installation bare bones. Donc, t'auras que React. Et après, c'est à toi par-dessus. Si tu veux du server side rendering, tu rajoutes des plugins, des modules, des trucs, machin. C'est vraiment pour build un petit peu ta propre stack, partir sur Vite, quoi.
Et puis, en fait, une fois que t'as ton boilerplate d'installer, ça va être un peu comme créer React App, tu vas avoir juste une page qui va s'afficher et c'est tout. Donc effectivement, un peu la complexité, c'est de savoir ce qu'on va vouloir utiliser pour remplir son site, C'est là, en général, aussi, qu'on a encore plus de débats dans le front-end. C'est génial, ça ne finit jamais. Quand tu vas être côté front, en général, ce qu'on va vouloir, c'est d'avoir un design system pour nous aider à avoir quelque chose de consistant et avoir une base solide sur laquelle s'appuyer pour créer notre UI. Donc, généralement, les gens, soit la construisent eux-mêmes, mais de mon expérience, c'est quand même assez rare parce que c'est quand même quelque chose de difficile à créer et à maintenir. Et c'est pas notre métier de créer un design system. En général, nous, on veut plutôt se concentrer sur la business. Donc, on va utiliser des design systems qui existent, des component libraries qui existent. Typiquement, nous, dans notre entreprise, on a créé notre design component system library qui est basé sur Material UI. Manu, tu utilises autre chose, il me semble ?
J'utilise plusieurs choses, mais mon approche de choix, c'est de prendre des libres de composants qui n'ont pas de design. Comme ça, j'ai juste à appliquer le design par-dessus, mais j'ai tous mes composants qui fonctionnent. Et ensuite, je fais mon petit CSS pour qu'il ait exactement l'apparence que je souhaite.
Voilà. Et c'est quoi la lib ?
Moi, j'utilise Radix. Radix, c'est un peu comme Material UI, mais juste avec pas de style. C'est très axé sur l'accessibilité, keyboard navigation et le fonctionnement des composants. Donc, en fait, ils sont très, très qualitatifs, mais ils ne ressemblent à rien par défaut.
Donc, ouais, t'as quand même du travail de stylisation à faire.
Exactement.
Et le problème que tu fasses ce travail-là de ton côté. C'est pas gratuit, quoi.
C'est ouais. Pas du tout gratuit. Material, tu prends un composant, il fonctionne. Et il est beau. Radix, tu prends un composant, il n'est pas beau, mais il fonctionne. mais l'avantage, c'est que bah, derrière, tu es peut-être un peu plus flexible pour customiser exactement comme toi, ça t'arrange.
Tu as mentionné React Native, Amélie. Et donc, soit ça c'est une de zone d'expertise de React. Donc, React Native sert à développer en React des applications mobiles, c'est ça ?
Oui, absolument. En fait, ça va être le même système que React. C'est le même type de fonctionnement. Et en fait, c'est juste la plateforme sur laquelle ça va compiler, entre guillemets, qui va différer. À la fin, ça ne va pas générer du HTML, mais ça va générer du code natif, donc soit Android, soit iOS, pour pouvoir fonctionner sur nos téléphones. Ça venait un peu en contradiction avec Ionic à l'époque, qui était du coup le pendant Angular, si on veut, enfin Google, hein, en fait, des frameworks pour créer des applications mobiles. Ionic créait des WebViews, en fait. C'est-à-dire que ça va compiler quand même du natif, mais en fait, derrière, ce que ça faisait, c'est que ça crée un composant natif qui s'appelle WebView, et derrière, ça mettait du coup comme un browser, en fait, au final, et notre application affichait du HTML et du CSS, ce qui est, en termes de performance, pas idéal pour des applications quand même qu'on voudrait natives, et c'est pas vraiment le but non plus d'injecter un site web dans une application. Et donc, React Native crée des vraies applications avec des composants natifs générés à partir du React, des JSX qu'on crée. Et après, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser des composants qu'on va utiliser de base, ça va pas être des divs, ça va être des views, et en fait, la façon dont ça va être généré derrière va vraiment rendre un aspect dépendant de la plateforme sur laquelle il est rendu aussi, contrairement à d'autres frameworks, puisque finalement ton bouton va être différent nativement sur du Android et du iOS, et tout ça c'était rendu vraiment nativement à travers le framework que bien sûr on pouvait customiser et utiliser tout plein de librairies on top of it là, mais ça rendait vraiment une expérience vraiment native de l'application.
Et là, tu continues à utiliser React Native ou c'est quoi l'état aujourd'hui vis-à-vis de les développements mobiles avec React ?
Dans mon entreprise actuellement, on n'utilise pas React Native, mais il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup d'applications qui sont développées avec. Il y a, de mon avis personnel, du coup, beaucoup d'applications qui font du sens à développer avec React Native. En fait, l'avantage que ça a d'avoir du React Native dans une entreprise avec un site web en React, c'est que quasiment gratuit pour un développeur de passer du web à du mobile, dépendamment de ce qu'on fait, hein, encore une fois. C'est-à-dire que s'il y a du... je vais rentrer un peu plus dans le détail là, mais en gros, si tu veux développer une application React Native et que tu veux juste afficher des composants, des vues et pas vraiment interagir avec le hardware de ton device, c'est super simple à faire. Dès que tu vas vouloir interagir avec la caméra, avec des choses hardware du device pour le micro ou peu importe, tu vas devoir créer comme un espèce de bridge entre du coup ton application React et ton device pour pouvoir les faire fonctionner entre eux. Généralement, il y a des choses qui existent quand même parce que bah, React Native comme React sont des écosystèmes qui sont extrêmement développés avec une grosse communauté. Pour le peu que ça n'existe pas ou que ça fasse pas exactement ce que tu veux, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, comme je dirais, et commencer à développer tes bridges de toi-même en native. Et là, ça peut devenir compliqué. Mais généralement, pour une grande majorité des applications qu'on va vouloir développer, qui sont finalement le pendant mobile de notre version web ou alors un compagnon ou ce genre de choses, souvent, 90% des besoins sont couverts par le React de base. Donc, ça fait souvent du sens d'utiliser quand même React Native dans une entreprise si jamais le site web est en React. Encore une fois, ça dépend beaucoup des besoins et de ce qu'on cherche à faire, mais ça reste quand même beaucoup utilisé. Il y a Ionic qui est encore dans le game. Et voilà, après, la difficulté, c'est que, encore une fois, c'est le pendant guéguerre des frameworks où il y a aussi les développeurs natifs qui n'y trouvent pas leur compte aussi, qui font pas forcément le shift. Il y a aussi d'autres frameworks qui sont arrivés, d'autres libs comme Flutter aussi, qui commencent à prendre aussi un peu le pas. Donc, tout dépend de ce qu'on cherche à faire, de nos équipes, ça dépend des besoins. Mais React Native reste encore aujourd'hui beaucoup utilisé malgré tout ça.
C'est super. Et donc, il y a énormément de ressources. Comme tu dis, la communauté, l'écosystème est énormissime et on peut rajouter beaucoup de librairies. Mais aujourd'hui, par exemple, sur les, si on ouvre un peu le capot du framework, de la librairie, un des points très, très importants, c'est garder l'état de ton application. Donc, en React aujourd'hui, ça se fait comment? Ça se fait avec un framework type Redux qu'on appelait ou librairie Redux, ou ça se fait différemment aujourd'hui. Je pense avec des peut-être avec des hooks.
En fait, ça dépend. Je vais faire un truc très haut niveau et je vois Manu qui dit non déjà, donc je sais qu'il va réagir à tout ce que je vais dire. Alors, mais c'est pas grave, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu vas dire. Mais je veux juste, parce que en fait, il y avait une des conférences que j'avais faites sur justement les états de nos applications React. Et je veux remettre un peu les choses plus simplement là que tout ce qui existe. Donc, notre application React va avoir un état. Chaque composant va avoir un état et notre application en elle-même va avoir son état également. En fonction de où est-ce qu'on se trouve, de ce qu'on fait, de ce qu'on fetch, de state loading, whatever. Donc, il va se passer plein de choses dans notre application et on va vouloir gérer ça.
Un état, ça peut être, par exemple, je suis connectée, je suis pas connectée.
Ça peut être
et
ça.
J'ai la personne qui est connectée avec 2-3 données, mon prénom qui est
exactement.
Et les droits, par exemple, les droits à avoir, c'est pour mettre un exemple. Visuellement facile. Si je suis un administrateur, peut-être que je veux avoir certaines données affichées, mais si je suis un utilisateur lambda, je vais avoir un autre. Mais du coup, cet état-là doit être partagé un peu.
Exactement. Et donc, en fait, il y a plusieurs niveaux d'état, comme tu l'as dit, en fait. Il y a plusieurs niveaux d'état à gérer déjà. React est assez vanilla dans son approche où chaque composant va avoir son état déjà. Donc, parfois, selon la simplicité de l'application qu'on va vouloir créer, peut-être qu'il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau et utiliser les états de chacun des composants peut suffire. C'est-à-dire que si tu as deux composants qui utilisent le même état, mais peut-être ramener l'état dans le parent pour le partager dans les composants enfants peut suffire. Il y a des moyens de se simplifier un peu la vie vis-à-vis de ça. J'avais présenté un système aussi de vanilla, de gérer son state au global dans l'application que je recommande pas forcément de faire, mais qui peut être intéressant à construire. C'est-à-dire que comme on sait que chaque composant a son état et que React propose quelque chose qui s'appelle le contexte aussi dans l'application, on peut gérer son état au travers d'un contexte. Le contexte dans React, c'est simplement un objet qui va être mis au niveau d'un composant. En général, on le met au plus haut niveau, on le met sur le plus haut niveau de l'arbre, c'est-à-dire à la racine de notre arbre React. Faut imaginer que on l'a pas dit au début, mais que React, c'est un arbre de composants et que on a du coup, comme je t'avais dit au début, ce div root qui est tout en haut et qui, lui, va avoir plein de composants en enfant, et c'est ça qui crée notre architecture de composants et donc notre application à la fin. Et donc, le contexte, on peut se dire qu'on va le mettre sur un des nœuds de l'arbre, typiquement sur du state partagé dans toute l'application, on le met au plus haut niveau de l'arbre, sur la racine, pardon. Et le contexte, on va pouvoir partager.
Voilà, tout le monde peut, tous les composants peuvent accéder à ce contexte-là.
Et là, on pourrait se dire, on met un contexte natif de React à ce niveau-là qui contient un objet et du coup, de mettre du state à l'intérieur. Ça, c'est possible de le faire. C'est pas hyper optimisé dans le sens où, en fait, dès que tu vas mettre à jour du coup ce state, tu vas re-rendre tous tes composants en dessous parce que du coup l'objet a changé, etc. Donc c'est pas hyper optimisé, mais il y a des solutions qui existent.
C'est bientôt plus le cas d'ailleurs, by the way. Ce sera bientôt tout aussi optimisé de faire ça aussi.
Ah, donc bientôt, l'effet de ça va être même une pratique, peut-être même recommandée.
Peut-être que ce sera une... peut-être que Amélie, tu as été précurseur de cette technique, sans le savoir. Franchement, voilà, je pense que tu as contribué à ta manière.
C'est quoi un hook? C'est un concept aujourd'hui très important en React. C'est quoi un hook?
Un hook? Vas-y, vas-y, t'es chaud, vas-y. Allez, vas-y.
Je suis bouillant sur okay. Les hooks dans React, vu qu'on est passé d'un modèle avec des classes et des instances et qu'une instance de classe, c'est quelque chose qui reste persistant dans la mémoire, et vu qu'on est passé de ce modèle au modèle des fonctions, bah, on est obligé de sauvegarder, mais qu'on a quand même ce besoin de sauvegarder de l'état, bah, on s'est retrouvé face à un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que bah, ce qui à l'époque était un attribut de classe dans lequel je pouvais dire isAdmin ou isUser, bah aujourd'hui, je peux pas juste faire une variable dans une fonction, parce que dès que ma fonction elle a return, bah, elle est détruite. Voilà, c'est une fonction. Une fois que le return est fait, une fois que t'as renvoyé la vue, y a plus rien dans la mémoire en fait. Donc, du coup, on s'est retrouvé face à ce problème de comment est-ce qu'on sauvegarde l'état. Et donc, en fait, React nous a mis à disposition des fonctions à eux, qui sont en fait un getter et un setter, qui fonctionnent de manière scopée par composant. Donc, typiquement, si on a une navbar, on peut imaginer setNavbarState et getNavbarState. Et c'est deux fonctions que React va nous donner dans lesquelles on peut finalement sauvegarder l'état de notre navbar, en fait, pour savoir si c'est une navbar d'admin ou une navbar de user. Et en fait, un hook, c'est ça. C'est une fonction que React nous donne, qu'on va utiliser dans la fonction du composant pour set ou get du state. Sauf que le vrai nom de la fonction dont je viens de parler, c'est pas get navbar et machin set navbar, c'est useState. Mais dans l'idée, c'est ça.
Aussi, il y a le hook, un autre hook important, c'est useEffect.
Ah oui, on a useEffect. useEffect, c'est un hook qui permet de... Alors, il est un peu complexe celui-là et il fait sujet à grand débat, très très grand débat. Bon, c'est un hook que je déteste. C'est un hook que je déteste. J'ai vraiment une strong opinion sur celui-là. Je pense qu'il faut l'utiliser
moins possible.
Le moins possible. Moins t'as de use effect, plus ton code est facile à suivre pour un cerveau humain normalement constitué.
Je viens pas voir la console de Finispan alors.
Il y a trop de use effect partout. En gros, use effect, le principe de base de ce hook, c'est fait pour statiser quelque chose. En gros, c'est ça. Tu as un système extérieur, par exemple un événement, un listener qui va renvoyer une value, et tu veux que cette value ce soit un state, que ça fasse partie de ton application React et que ce soit dans le lifecycle, et qu'en fonction de la valeur de cet événement, l'affichage change, donc en fait un state, et ben tu vas utiliser useEffect. C'est fait pour statiser quelque chose qui n'est pas du state ou pas une props.
C'est déclencher un state, des changements en fonction d'état.
C'est des effets
ouais,
de bord.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est plus un hook de synchronisation. C'est un hook de synchronisation pour synchroniser des choses qui ne sont pas du state et le convertir en state, donc en fait le synchroniser avec le render cycle de React. Aujourd'hui, il est extrêmement incompris et il est souvent utilisé pour watch. Il est utilisé comme une fonction qui pourrait s'appeler watch parce qu'en fait, c'est ça qu'il fait au final, c'est il watch un peu la valeur des choses pour les convertir en state, mais le problème c'est que les gens ils passent souvent du state dedans, donc en fait ils watch des states pour déclencher des effets de bord, alors qu'en réalité c'est pas trop ça l'idée, c'est pas ça le but de base du hook, donc il est très très incompris, mais la team React en a conscience, et donc ils ont fait une page de documentation immense, avec tous les use cases possibles de tout comment les gens utilisent useEffect, ils ont une trentaine d'exemples d'affilée, avec une énorme FAQ, juste pour ce hook en expliquant, vous ne devriez probablement pas utiliser useEffect, voici pourquoi, voici par quoi vous devriez le remplacer, etc. etc. Donc voilà, pour les codebases qui ont beaucoup d'useEffect, je recommande vraiment de lire cette page de la doc qui est excellente.
Je viens de noter ça voilà. Dans ma to-do list. Après, l'application que nous on a en InfiniSpan, la console web, elle est plutôt petite en fait, c'est plutôt une appli très petite qui fait des appels back-end, c'est pas hyper compliqué. Et puis après, il y a le framework composant qu'on utilise, mais en effet, je pense qu'il y a de quoi améliorer l'usage en soi de ces hooks-là. Et de justement revenir à cette idée de l'état, comme tu as dit, de dire on peut avoir un état, parce que c'est ça, si nous on fait un contexte qui englobe toute l'appli, dès que ce contexte-là, comme il est passé dans tout l'arbre, si par exemple... Aujourd'hui, si j'ai bien compris, si j'ai user s'appelle Katia et pour une raison X s'appelle, elle a perdu un droit ou je sais pas. Du coup, il se met à jour. Mais juste ça, en fait, tous les composants de mon appli vont avoir un re-rendering Et donc, c'est en ça que tu disais, si, en effet, si ton application est petite, ça se trouve, c'est aucun problème, et c'est très, très bien que ça se passe comme ça, mais si ton appli et ton arbre des composants est gigantesque, bah, ça peut avoir des effets de performance.
Oui.
Par contre, là où tu dis, Manu, c'est que ces trucs-là, peut-être, sera plus le cas bientôt.
Exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu consommes ton contexte, t'es obligé de récupérer l'entièreté du contexte dans ton composant. Et ça, c'est ce qui fait que, en fait, React, ils peuvent pas savoir quelle partie de la variable, quelle partie de ton objet t'intéresse. Sauf que la prochaine mise à jour, ce qu'elle ajoute, c'est quelque chose qui s'appelle Selector, où tu peux dire, il y a juste cette partie-là du contexte qui m'intéresse. Donc, tu vas seulement re-render si cette partie-là a changé. Donc, on a plus de problèmes.
Ouais, donc, après, il faudra faire attention en fonction de ce que tu mets à jour, si c'est un objet, que ta référence d'objet change. Enfin, il faudra toujours maîtriser ce que tu fais.
Tu peux.
Et oui, voilà.
Ouais, c'est ça. Mais tu peux aller chercher
donc,
et nester dans un
objet. Tu disais, il y a d'autres manières. Ça, c'était ce que tu préconisais comme une option. Mais il y a d'autres manières dans une appli plutôt costaud. Comment tu pourrais faire aujourd'hui?
Alors, même en fait, faut garder à l'idée que on n'est pas obligé d'avoir un state management unique dans notre application. On peut très bien gérer une partie dans le contexte si jamais on a beaucoup de choses statiques et gérer ça comme ça. Ou alors, on peut aussi utiliser, ben, encore une fois, le premier qui est apparu et dont tout le monde entend parler. Et apparemment, ça donne des boutons à certaines personnes, c'est Redux, qui lui permet. C'est un peu le même principe. Il va s'attacher à un nœud de ton arbre. Il va garder le state à côté et en fait la différence c'est que comme il n'est pas passé en contexte partout, quand tu vas modifier une variable à l'intérieur de ton state Redux, ça ne va pas rendre tout ton arbre, ça va rendre uniquement les composants qui lisent du coup la variable de ton Redux, un peu ce que décrivait Manu juste avant. Redux a ses fans et ses moins fans maintenant. Et donc Redux aujourd'hui, en fait, il a eu son heure de gloire quelque part. Il a été beaucoup utilisé, il l'est encore beaucoup. Les gens lui reprochent beaucoup d'être très 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 verbeux en fait. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir écrire du state Redux, il va falloir que tu crées ton wrapping, mais ça à la limite on s'en fiche. Il faut que tu crées ton reducer, il faut que tu crées tes actions, il faut que tu gères ton state correctement. Il y avait beaucoup de choses à créer pour ne serait-ce qu'une toute petite partie de state que tu vas vouloir créer. Il y avait beaucoup de boilerplate à côté. Ça a été un reproche qui a été pas mal fait. Redux a quand même beaucoup évolué depuis. Et donc, ils ont créé un sucre syntaxique on top of Redux qui s'appelle Redux Toolkit maintenant, qui est la nouvelle façon de l'utiliser, qui est un petit peu plus light, mais qui garde quand même pas mal de boilerplate autour de tout ça. Et entre-temps, l'écosystème a explosé. Il y a eu énormément de state management library qui ont émergé. Donc, je pense à Valtaio, The Stand. Il y en a plein d'autres, en fait. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui existent. Et il y a notamment aussi Jotai. Il y a aussi React Query qui est apparu, qui ne fait pas... alors, je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais pas, Manu, si toi, tu l'as utilisé, mais qui gère beaucoup aussi tout ce qui va être appel au back-end. Donc, c'est pas seulement du Redux. Donc, Redux gère aussi les appels back-end avec les sync, qui nous permettaient de faire des appels asynchrones et de gérer notre state par rapport à ça. Et React Query est apparu beaucoup plus récemment que Redux. On répond aussi à cette problématique de faire des appels back-end et de gérer ça aussi de façon à synchroniser notre state dans l'application. Je ne sais pas si Manu, tu l'as utilisé. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Peut-être que tu peux en parler plus. Je pense que c'est intéressant.
C'est hyper intéressant. React Query ou TimeStack Query, parce que ce n'est pas lié à React. Ça existe aussi en Vue, en Svelte, en Angular et en je sais plus quoi et en Solid dont on n'a pas trop parlé. Du coup, ouais, TimeStack Query, c'est une librairie de async state manager. Donc en réalité, c'est un state manager. Donc je suis hyper content que Amélie t'en parle dans cette catégorie-là parce que c'est souvent incompris aussi comme étant une lib de data fetching, mais c'est pas forcément vrai. En gros, aujourd'hui, les state managers partent souvent du principe que la data est disponible de manière synchrone, sauf que c'est pas tout le temps le cas. Et TimeStack Query, en fait, il part pas de ce principe-là. Donc, en fait, il te propose finalement une API pour, en fait, gérer un state de manière asynchrone. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que tu as un state dans ton front-end, en fait, dans ton code, mais qui est possiblement out of sync, qui est désynchronisé avec le state asynchrone qui serait, bah, je sais pas moi, dans un Redis, qui serait dans une API REST, tout simplement dans une database que tu contactes via une API REST ou n'importe quoi, n'importe quelle fonction asynchrone qui permet de récupérer le state et de set le state. Et du coup, voilà, React Query te permet d'interagir avec tous ces states asynchrones. Donc aujourd'hui, c'est la solution préférée souvent, enfin préféré, j'exagère un peu, je suis peut-être dans mon prisme, mais c'est une solution populaire, très populaire, pour consommer les API REST, parce que du coup, on change un petit peu la philosophie de comment le front consomme le REST. Donc plutôt qu'encore une fois être dans l'impératif avec à ce moment-là, je récupère tel endpoint, nanana, machin, bah finalement, la vision change complètement et on part du principe qu'on a accès à toute la... comme si on avait accès à toute la DB et à tout le state dans notre front. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est que dans notre code, on dit, bah tiens, j'aimerais accéder à ça. Et en fait, React Query gère la logique de se dire, ok, tu aimerais accéder à ça, il se trouve que je ne l'ai pas dans mon cache, donc je le fetch. S'il l'a déjà dans son cache, il ne le refetch pas, etc., etc. Donc toi, tout ce que tu as donné à React Query, c'est tes fonctions pour faire ton data fetching, que ce soit sur un Redis, sur une API REST, sur n'importe quoi. En fait, finalement, comment tu récupères ta data de manière asynchrone, et lui, il te file des fonctions pour consommer cette data. Donc,
Et React Query, ça fait partie du projet React aujourd'hui, ou c'est quelqu'un d'autre qui le gère?
C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui s'appelle Tanner Linsley, qui est à l'origine de beaucoup de librairies qui sont utilisées dans l'écosystème React. C'est un des big boss un peu. Il a fait TanStack Query, il a fait TanStack Table, il a fait TanStack Router. C'est trois librairies que j'utilise sur ma stack perso. Donc, rien que sur ma stack perso, il y en a trois de libres, c'est lui. Donc, voilà, le mec est très, très fort.
Merci pour tous ces tips. Après, j'aimerais qu'on ouvre un peu le capot et qu'on essaye de comprendre un peu quels sont le rendering. Parce qu'on parle beaucoup de rendering client, ouais. De rendering machin, les rendering. Et donc, le server-side rendering qui est la promesse de cette version-là qui vous avez dit que c'est un peu expérimental pour l'instant.
Alors, je vais différencier deux choses. Server-side rendering et server component. C'est deux choses différentes.
Tout ça, c'est pas très clair pour moi. Si c'est pas très clair pour moi, j'imagine que c'est pas très clair pour d'autres gens. Donc, c'est quoi les différences? C'est quoi le rendering? On parle de rendering. Donc, c'est quoi les client-side rendering, les server-side rendering et les server components?
Je vais juste ouvrir un peu une parenthèse sur le rendering. Est-ce que ça signifie au niveau du React? Juste pour expliquer sur les néophytes. Parce qu'on n'a pas parlé avant et je pense que c'est hyper important. La façon dont fonctionne React, c'est assez simple à expliquer. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué à implémenter. Je suis contente de pas être dans l'équipe de React pour ça. Mais ça se base sur ce qu'on appelle un virtual DOM. Le virtual DOM, c'est comme une... Donc, on a notre... Le DOM, c'est notre HTML, si on veut, c'est notre arbre HTML. Le virtual DOM, ça va être comme une copie du HTML. Et ce qui va se passer, c'est que quand notre état d'application, donc notre state, change, on va avoir une nouvelle version de notre virtual DOM, du coup, avec l'état à jour de notre application qui va être créée. Et il y a un processus de réconciliation qui se fait entre du coup le DOM et le virtual DOM pour voir ce qui a été modifié. En fonction de ce qui a été modifié, React, under the hood, il va aller créer du coup tous les event listeners et tout ce qu'il faut pour aller mettre à jour du coup uniquement les parties du DOM associées qui ont été modifiées pour ne pas rendre toute l'application, mais uniquement les composants dont le state a changé. Et c'est comme ça que on arrive à avoir une application qui ne se rend pas intégralement tout le temps, mais d'avoir seulement les composants qui ont changé à un instant T qui vont être re-rendus. Donc ça, c'est processus de réconciliation virtuel DOM. Et c'est aussi ça, je rouvre la parenthèse sur le React Native, qui est utilisé dans React Native. Donc en fait, on a ce processus de réconciliation qui est exactement le même entre le natif et le web. Et c'est juste que le rendering, du coup, qui va être fait, qui est une deuxième phase différente, distincte. Le rendering va soit output du HTML si on est dans le web, soit output du iOS ou du Android si on est sur du React Native, donc sur du natif. Ces deux phases existent under the hood. Il n'y a rien à gérer quand on utilise React. C'est fait nativement par la librairie. Mais voilà, c'est le React Core, c'est vraiment ça. C'est ces deux phases, réconciliation et rendering. Et après, sur tout ce qui va être client-side rendering, server-side rendering et React Server Component, el famoso. Donc, le rendering côté client, c'est ce qui existait quand on faisait le create React App à l'époque. À l'époque, on crée l'application et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on va sur un site web. Les sites web nous renvoient le bundle avec le React et le JSX et c'est le client, le browser qui va aller récupérer ça, qui va aller loader le React, qui va aller processer le JSX et output le HTML. C'est tout fait côté client, tout ça. Et le navigateur charge le React et le React va aller processer voilà tout le JSX, output le HTML. Et tout se passe côté client, en gros. Le serveur, lui, c'est juste un serveur statique qui renvoie le bundle et il ne fait absolument rien, aucune logique. C'est dumb comme pas possible. Ben, en fait, ça a été le cas pendant longtemps comme ça. Le désavantage, c'est que du coup, c'est le client qui s'occupe de tout. En fonction du browser, ça peut prendre plus ou moins de temps. En fonction de l'application, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est pas optimisé nécessairement. Mais bon, voilà, l'utilisateur pouvait interagir directement avec l'application. Et pour pallier à d'autres problématiques que Manu va expliciter là, il y a eu le server-side rendering qui a été introduit avec React plus tard.
C'est ça. Ça, franchement, très bien expliqué. Du coup, c'est ça, le client-side rendering. C'est juste pas le client qui s'occupe de render. Et le server-side rendering, en opposition à ça, c'est qu'en fait, on fait un rendering une fois sur le serveur, un petit peu à la PHP. Le server-side rendering, c'est PHP. C'est-à-dire que quand ton navigateur va faire la requête pour avoir ta page about, par exemple, à propos, et ben en fait, le serveur va renvoyer le HTML et le CSS. Donc, pour le moment, il n'y a pas de React qui rentre en compte dans ce jeu-là. Donc, la page est directement visible à l'utilisateur. Et ensuite, on envoie, le navigateur envoie également le fichier JS. Et là, le but de React, c'est de raccrocher les événements aux bonnes balises HTML-CSS qui ont été envoyés par le server-side rendering. Et du coup, ça, c'est cette étape qu'on appelle l'hydration. L'hydration, c'est-à-dire raccrocher l'état, le state de React et les événements au HTML qui est déjà présent dans la page, en fait. Donc, problématique qui n'existe pas du tout quand c'est le client qui génère sa page. Mais quand c'est le client qui génère sa page, il y a plusieurs problèmes, dont le Search Engine Optimization, SEO, c'est-à-dire que tu seras possible, en tout cas, c'est vu que c'est pas open, c'est un peu une black box, le SEO, mais on se plaît à croire que tu seras moins bien référencé sur Google parce que ben, finalement ton HTML il est vide par défaut parce qu'il est généré par le JS. Donc c'est-à-dire que si tu regardes le code source d'un fichier d'un site en React client side render, tu verras juste une div avec écrit content par exemple et dedans ce sera vide. Donc vu que tout a été généré au runtime par le frontend lui-même. Et du coup, t'as...
Oui, pour rattacher, par exemple, si tu veux savoir des actions qui font des utilisateurs ou des trucs comme ça, il va falloir que tu fasses des codes spécifiques pour ça.
C'est automatique dans les librairies qui permettent de prendre React et de le rendre compatible avec le server-side component. En général, cette lib nous abstrait le code-là. Nous, on n'a pas besoin de dire nous-mêmes comment on rattache les événements et tout ça. Donc, tant mieux. Donc, c'est-à-dire que pour les développeurs, en priori, il n'y a pas de grosse différence. Aujourd'hui, c'est tellement bénin de faire du server-side rendering que ça s'est relégué au rang de setting, quoi. C'est limite une setting, tu mets true ou false et t'as le server-side rendering ou pas, quoi. Ou selon le framework que tu choisis, c'est là de base et tu te poses pas de questions, quoi.
Si tu as tes services, imaginons une application qui a des services, des REST, des endpoint REST en Java, ton front-end, tu le fais comment alors dans ces sens-là? Tu dois comment tu fais?
Excellente question. Et c'est là qu'on va introduire une nouvelle notion encore une fois. Je suis désolé. C'est le back-end du front-end et le back-end métier. Et du coup, toi, le back-end dont tu parles, le back-end Java, c'est le back-end métier. C'est là où il y a la business logic. C'est vraiment, c'est le cœur de ton produit. Mais aujourd'hui, on le découpe même carrément du back-end du front-end, qui est en fait juste le back-end qui sert à renvoyer les bons fichiers HTML, CSS et JS en fonction de la route qui est demandée, donc de l'URL. Alors, on pourrait imaginer un monde où, en fait, c'est aussi ton application Java qui doit renvoyer l'HTML, CSS, JS de la bonne route en fonction de l'URL qu'on demande et tout. Mais du coup, ça voudrait dire que tu aurais besoin d'une intégration React dans ton framework Java. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. C'est peut-être un bourbier. C'est pour ça qu'on est très content avec ce découpage de dire, OK, donc on a un back-end spécial juste pour nous fournir le front-end en SSR. Et ensuite, il y a le back-end métier. Donc, comment ça se passe? C'est que c'est que le front qui s'en occupe parce que c'est que du code front-end, mais qui tourne aussi sur le back-end grâce à Node.js. C'est que vu que React, c'est du JavaScript et que Node.js, c'est JavaScript on the server, ce qu'on peut faire, c'est que le SSR, c'est quoi? C'est si je demande un URL, donc slash à propos, on va run React au moment de la requête. Donc, je reçois une requête, React run sur le serveur dans Node.js, il me génère mon HTML. Et ensuite, en fait, il est renvoyé côté client. C'est généralement dans le même projet. Donc, il y a pas de, c'est pour ça que je dis que ça se relègue au rang de setting ou de framework. C'est presque transparent de faire du SSR aujourd'hui. C'est ton code front-end qui est juste déployé sur le back-end. C'est plutôt une problématique presque d'infra. C'est voilà. Il y a pas de code spécial.
Ouais, c'est assez transparent, en fait, pour un développeur front-end. Finalement, ça va être vraiment dans la façon Il va en parler tout à l'heure avec les RSC, là, les React Server Components, mais c'est vraiment la façon dont on va créer notre application, la gérer, qu'on va faire du SSR ou du client ou du serveur, mais au final, pour un front-end, c'est hyper transparent, quoi.
Oui, par exemple, si t'as pas de problématiques trop liées au SEO, si c'est une application, plus une application, d'intranet, par exemple, on va pas peut-être se faire des soucis vis-à-vis du server-side rendering. Ça va tout rester client et basta. Si c'est plus un truc applicatif, un truc interne, mais si t'as besoin du SEO ou faire une appli plus publique et tout, par exemple, c'est un exemple, le SEO, mais en effet, on va aller introduire les server-side rendering et ça fera partie du travail du front. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ces trucs de React Server Components?
Alors, c'est n'importe quoi, parce que bon, React, ils sont mondialement connus, je dirais, pour choisir des noms un peu bizarres. Déjà, le fait que tous les hooks commencent par use, qui c'est souvent pas très clair dans la tête des développeurs, alors que use, ça veut juste dire get et set en même temps. C'est un getter et un setter en même temps, use. Voilà, donc maintenant que vous avez, ça a sûrement débloqué un truc dans le cerveau des auditeurs. Mais du coup, ouais, c'est le problème avec le naming hein, chez React, ils sont un petit peu perchés. Mais on les aime aussi pour ça. Server Components, là, je vais vous dire la catchphrase, c'est que ça tourne pas forcément sur le serveur. Donc voilà pourquoi je dis que le nom est un peu bizarre, parce qu'on a envie de l'associer avec serveur, parce qu'il y a serveur dedans, mais pas spécialement. En gros, un Server Component, c'est du templating. Je sais que, il me semble, en Java, un des template engines les plus connus, c'est Timelif. Tu vois, c'est du templating qui te permet finalement de gérer les trucs, tu vois. Et en fait, un Server Component, c'est quoi ? C'est le layer au-dessus. C'est du templating qui va te générer du React. Donc, on peut imaginer une syntaxe totalement à part. On va dire, c'est pas du React. C'est du mustache, du time lift, du steam lift, peu importe. Et en fait, on va générer notre React tree. Alors que, avant, on le tapait directement. Et du coup, c'est un peu comme quand tu fais de la code gen ou quand tu build vers un autre langage. En fait, vu que tu as une stack au-dessus, ça te permet de faire plus de trucs. Typiquement, la partie qui se charge de compiler le code de la stack au-dessus vers la stack en dessous, elle peut faire des optimisations. Tu vois, comme quand tu fais de la code gen, t'as des possibilités supplémentaires. Des fois, t'es presque même obligé. Les React Server Components, c'est ça l'idée. C'est en fait, on a notre arbre de composants, mais on a un arbre de composants parent qui génère l'arbre de composants enfant. Alors, ça peut être, on peut se dire, waouh, quel intérêt? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on avait besoin de faire une telle dinguerie? En réalité, ça résout pas mal de vrais problèmes concrets de la vie véritable. Notamment le fait qu'aujourd'hui, si tu utilises une librairie dans React, donc je vais prendre une librairie complètement au hasard. Par exemple, quand tu as des codes blocs sur les sites et que tu veux la syntaxe, si je mets un bout de code C++ sur le front-end de mon site à afficher, j'aimerais qu'il me colorie les variables, qu'il me colorie int, int étoile, il me colorie tous les types et tout. Voilà, de la coloration syntaxique dans mon front. Ben, je vais utiliser une librairie pour ça. Je vais pas le faire moi-même, hein. Je vais pas m'amuser à parser du C++. Donc, je vais utiliser une librairie. Donc, c'est cool. Sauf que le fait que j'utilise cette librairie, elle va se retrouver complètement dans mon front-end, en fait. Indépendamment que je fasse du client-side rendering ou du server-side rendering, ça n'a pas d'impact. Cette librairie, elle va se retrouver dans mon bundle, comme elle disait Amélie. Le bundle, c'est la somme de tous les fichiers JS dans mon front. Du coup, ça veut dire que je peux pas dire, tiens, j'aimerais faire cette coloration syntaxique sur le serveur avec la librairie, obtenir le HTML et CSS qu'il faut pour ça, et ne pas envoyer la librairie au front. Puisqu'en fait, je n'ai pas spécialement besoin d'avoir cette librairie qui vit dans le front, dont le but est de coloriser la syntaxe, parce que bah, finalement, le server-side rendering renvoie déjà le HTML et le CSS qu'il faut. Donc, j'aurais pas besoin de recompute ce truc, en fait. C'est un problème qu'aujourd'hui, on peut pas résoudre autrement qu'avec les serveurs components de React, parce qu'en fait, tu n'as que un bundle, que ce soit ton bundle client ou ton bundle serveur du SSR. C'est exactement les mêmes fichiers. Donc, il n'y a pas de distinction sur qu'est-ce qui tourne sur le serveur et qu'est-ce qui tourne sur le client. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure avec le server-side rendering, c'est vraiment littéralement juste ton site React client qui tourne dans notre JS sur le serveur. Donc, on n'a pas de manière de résoudre l'arbre. On n'a pas des trucs qu'on dit, bon, bah, ça, on l'injecte pas dans le front, ça, on l'injecte dans le front. On n'a pas cette manière de faire cette distinction. Les serveurs components, ils rajoutent une abstraction par-dessus ça. On a un template, un langage de template qui génère nos composants React. Et du coup, dans ce langage de template, on pourrait importer notre librairie de coloration syntaxique qui, en fait, ferait notre coloration syntaxique. Et ensuite, derrière, bah, du coup, avec nos templates, on génère notre arbre de composants React, on génère notre HTML, CSS colorisé. Et derrière, on obtient le bundle client qui contient les composants React dans le front dont on a besoin, et ce petit bout, ce petit carré, le trou qu'on a percé un petit peu dans ce bundle, où il y a le HTML CSS de notre code avec la coloration syntaxique. Donc en fait, c'est ça l'idée des serveurs components. L'idée des serveurs components, c'est de se dire, bon, on se permet de dire qu'est-ce qu'on envoie dans le bundle, qu'est-ce qu'on n'envoie pas, et qu'est-ce qu'on compute à quel moment. Alors là où c'est un très mauvais nom, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui va être compute au runtime, et on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec le SSR, alors que pas spécialement. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi ça n'a pas de rapport avec le SSR ? C'est parce qu'un serveur component, ça peut être run au build time. Du coup, c'est serveur dans le sens, pas un serveur qui listen une connection et qui attend quelque chose pour reply quelque chose. C'est un serveur dans le sens, ton ordi, ça peut être le serveur, typiquement. Si tu fais... tu lances la clip pour build React, bah en fait voilà, c'est ton ordi le temps que ça build, et une fois que tu as le fichier de sortie, bah voilà, il y a plus de serveur component. En fait, le serveur component, c'est juste la stack au-dessus qui te génère l'arbre de composants React. Donc tu pourrais avoir ce composant, si je reprends l'exemple de coloration syntaxique, là on a imaginé l'exemple où le client fait une requête. Il demande au serveur, donc le client, il va sur un navigateur slash à propos, et dans à propos, il y a mon petit code snippet. Ça demande au serveur de générer finalement cette page-là, donc on est en SSR. Le serveur, il génère cette page-là, donc il me met mon bout de code C++ avec les bonnes couleurs et tout, et il nous le renvoie côté client. Dans ce scénario-là, les serveurs components, il tourne au runtime sur le serveur. C'est-à-dire que c'est quand le client fait une requête qu'on va compute, grâce à cette librairie qui nous colorise, on va compute l'HTML en sortie de ce truc, de cette lib, et ensuite le renvoyer au client. Mais on compute que l'HTML en sortie, et on ne renvoie pas la lib au client.
Donc finalement, c'est pour résoudre de problématiques techniques.
Exactement, tu as tout compris, et je suis très heureux. C'est complètement, uniquement pour résoudre des problématiques techniques. Maintenant, on peut imaginer... le web, ça run partout. Aujourd'hui, on a tous des smartphones et on va tous dans la rue, on est en 4G, à visiter des pages. Le truc, c'est que le code en React, plus tu utilises de lib, plus il est gros, plus ton bundle, il explose. Les sites qui sont lents à charger en React, on connaît. On a pas mal souffert à cause de ça, j'imagine. Donc, ça permet finalement de supprimer ce problème-là, de se dire, bah, en fait, on fait attention aux libs qu'on choisit de fou, parce que si elles sont trop grandes et qu'on peut pas, que quand elles build, elles sont pas optimisées ou quoi, eh ben, elles vont se retrouver dans le device des gens. Ils vont devoir télécharger des cinquantaines de MO pour juste afficher une page about, quoi. Donc, ça supprime cette problématique technique, effectivement. En renant à l'avance, le but, c'est vraiment de compute à l'avance des bouts de l'arbre React. À l'avance, ça veut dire soit au build time, soit au runtime sur le serveur. Donc, c'est ça les serveurs components, en fait. Et c'est, du coup, ce langage de template qui génère le tri React qui est envoyé au client. Et ce langage de template dont je parle depuis tout à l'heure, je fais exprès de pas dire le nom, c'est React. En fait, c'est là où ils sont trop intelligents. C'est qu'en fait, ils utilisent React en template language pour générer du React. Vous l'avez ou pas?
On n'a pas à réapprendre un nouveau, un nouvel template engine ou un nouveau truc. On est encore aussi dans ce paradigme qu'il y avait eu notre JS, non? De dire, si on fait JS dans le front, faire du JS dans le back. Vous croyez que dans 10 ans, on va être encore ici à dire « Waouh, React a 20 ans ».
Ok, en fait, React a énormément évolué depuis qu'il a été créé au début. Il a beaucoup progressé, la communauté n'a fait que grandir. On a beau avoir beaucoup de frameworks qui émergent à côté. Il y a 15 fois plus de librairies, de state management, de routing, de frameworks on top of React qui apparaissent aussi. Je pense que React est très très loin d'être mort. Je pense que la dev team React Core est extrêmement intelligente, honnêtement, et nous sort des trucs à chaque nouveauté est incroyable, et franchement, ils vont chercher des paradigmes, des cas d'utilisation auxquels on n'avait jamais pensé, qui résout vraiment des problèmes. La principale problématique que je vois aujourd'hui avec React, c'est que effectivement, comme je dis, ils sont extrêmement intelligents, ils pensent vraiment en amont des choses auxquelles nous, on n'avait même pas encore réfléchi à la façon dont on allait résoudre ou qu'on n'avait pas vraiment de solution. Et il y a toujours ce moment où ils arrivent avec leur solution, qui est très différente, encore une fois, comme les React Server Components, les Hook à l'époque, qui sont très différentes de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Et il y a comme un blocage au début ou quelque chose, comme une montagne, on le voit comme une montagne à surmonter, où c'est très différent, il y a un paradigme, il y a un changement, on comprend pas, il y a un mindset à avoir pour changer, en fait, la façon dont on utilise React avec ces changements, qui fait que c'est difficile à chaque fois. Donc là, le nouveau qui arrive, c'est le React Server Component. Il y en a d'autres qui arrivent, comme a dit Manu tout à l'heure, il y a le compiler qui arrive, qu'il va falloir comprendre. Il y a les server actions qui arrivent aussi, mais avec un lot de choses qui vont... Enfin, honnêtement, que moi, j'ai comme problématique côté front sur tout ce qui est les updates optimistiques de notre UI, qu'ils sont aujourd'hui hyper manuels, ou des choses qu'on se prend un peu la tête à faire, qui arrivent et qui résout énormément de problèmes, qui continuent à arriver, un flow continu comme ça. Et donc, ça évolue énormément. Je pense que ça fait aussi partie du fait que React est difficile, je pense, aujourd'hui à onboarder, contrairement à avant, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à connaître. Il y a de plus en plus de concepts, mais qui existent parce qu'on résout des problèmes, comme dit Manu, de la vie réelle. Et je pense que c'est hyper important de comprendre ce qu'on cherche à résoudre et comment, du coup, on en arrive à le faire. Donc, je pense que React, c'est compliqué, plus qu'avant. Je pense que c'est difficile d'onboarder. Je pense que c'est important de connaître les problématiques, les bases, et le langage, les JS, et les bundles, et le SEO. Et voilà, et ça demande énormément de connaissances, je pense, pour être vraiment à l'aise dessus, beaucoup de temps. Mais c'est pas mort. Et je pense qu'ils prennent vraiment la bonne direction. Après, encore une fois, je suis opinionated et je suis pro-React. Mais voilà, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas y avoir de nouveaux frameworks qui vont apparaître. Et ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire et de notre équipe aussi. Il va y avoir de plus en plus de solutions et c'est chouette, justement. Encore une fois, React, c'est Facebook. Et tout ce qui sort, même les React Server Components, c'est des choses qu'ils testent, eux, en interne. Facebook, c'est pas juste Facebook, hein, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est énormément d'applications autour. Et en général, tout ce qui sort, ils l'ont testé en interne avant. Donc, on sait que c'est quand même solide la façon dont ils nous le présentent et que c'est quelque chose sur lequel on peut rely, nous aussi, pour nos applications en prod, au moment où ils nous le présentent. Et je fais une dernière parenthèse, je suis désolée, c'est un peu long comme conclusion, mais il y a effectivement ces Canary bêta versions qui sortent aussi, où ils sont plus ou moins transparents sur la façon dont on peut l'intégrer, dont on peut l'utiliser. Il y a eu des problématiques avec Vercel, qui étaient les seuls à l'époque à supporter du coup les React Server Components, parce qu'il y a eu un manque de communication, moins de transparence, ce genre de choses. Mais voilà, je pense que si on se prend les versions stables à chaque fois et qu'on se rely, qu'on s'appuie sur la documentation à chaque fois, je pense qu'on React résout beaucoup de problèmes et est extrêmement solide à utiliser et continuera à l'être pendant encore très longtemps.
Bah franchement, je suis extrêmement d'accord. Mais après, encore une fois, on a deux aficionados de React dans le podcast, donc je sais pas trop à quoi on s'attendait, mais moi, ce qui fait que React est un très bon candidat pour survivre, c'est, je suis d'accord avec Amélie, c'est le fait qu'ils ont pas peur de tout détruire pour tout reconstruire d'une manière différente s'il faut résoudre un problème. C'est-à-dire qu'ils sont problem-based. Le problème aujourd'hui, c'est que les bundles sont trop gros en React, que c'est trop lourd pour les clients, les téléphones mobiles ou quoi, et qu'il faut changer complètement le paradigme, ils ont pas peur. Même si c'était pas quelque chose qui était prévu de base dans la lib, même si machin. Donc oui, du coup, c'est plus dur pour les développeurs de changer de paradigme toutes les deux minutes. Et je peux le comprendre, c'est ce qui arrive avec les hooks, c'est ce qui arrive un peu avec les RSC, c'est ce qui va arriver avec le compiler là. Je comprends, donc c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que c'est à nous de faire l'effort de se maintenir à jour, et c'est à nous de pas trop tomber amoureux de notre manière actuelle de faire du React, parce qu'elle est susceptible de changer, mais on peut tomber amoureux de l'idéologie de la flexibilité. Et moi, c'est mon cas. J'aime cette flexibilité. J'aime me dire qu'ils veulent, ils ont pas peur de péter le produit pour en faire un autre qui fonctionne différemment, tant que les problèmes qu'on résolvait avant sont toujours résolus d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que, voilà. Et eux, ce que j'aime bien aussi également, c'est que leur surface est minimale. C'est-à-dire que ils viennent tellement avec peu de solutions. Ils viennent tellement avec peu d'abstractions et peu de... En fait, il y a très très peu d'abstractions finalement dans React. Du coup, c'est assez flexible et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu fais du React, tu utilises d'autres librairies de state management. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le framework. Et me dire que c'est si minimal que c'est juste une fonction qui prend du state en paramètre et qui renvoie la vue, pour moi, c'est ça qui fait que ça va rester. Parce que c'est simple. C'est juste une fonction.
C'est simple, en même temps, c'est complexe. C'est complexe parce que quand tu essayes de résoudre des problématiques complexes, en effet, c'est compliqué. Hein. Mais pour faire des trucs simples, on a de quoi faire. Très belle conclusion. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette discussion. J'ai plein de choses. J'espère que, et je sais que toutes et tous qui sont là en train d'écouter, eux aussi. Donc merci beaucoup Amélie et merci beaucoup Manu pour avoir été là avec nous et puis à bientôt.
Merci beaucoup de nous avoir reçus Katia, ça nous a fait très plaisir et ben on se revoit dans 10 ans alors.
Oui, on se voit. J'espère qu'un peu avant à DevOps peut-être.
oui, absolument, il faudra.
Merci beaucoup, c'était très cool. À plus.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.